revenir aujourd'hui sur l'enseignement du Seigneur Jésus. Jésus était d'en haut. Il le dira. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu nous parler de nos affaires. Un homme l'a interpellé, « Maître, maître, j'ai un problème d'héritage. » Et le Seigneur répond, « Mais qui m'a fait ton notaire? Qui m'a établi juge dans tes affaires immobilières, dans tes soucis familiaux, de patrimoine ?» Il n'est pas venu pour ça. Quelqu'un aurait pu dire, « Mais quand même, le Seigneur, il est juste, il aurait pu là... » s'en occuper de cette affaire-là, mais sa non-réponse est encore meilleure. Des fois, on prie pour un tas de choses. Peut-être qu'il arrive des moments où le Seigneur ne nous répond pas. Parce qu'il n'est pas venu pour ça, forcément. Il est venu pour bien plus que nos problèmes d'argent. Il est venu pour bien plus que notre vie humaine. Il est venu pour nous parler d'autre chose. Il est venu pour nous parler de choses nouvelles qui n'étaient pas si évidentes depuis toujours, quoique l'Ancien Testament parle en de rares textes de la résurrection. L'apôtre Paul dit que la vie et l'immortalité ont été mises en évidence par l'Évangile. Jésus est venu nous parler de notre âme. Il est venu nous parler de la vie éternelle. Savez-vous que c'est lui qui a le plus parlé de l'enfer et de la géhenne? C'est d'ailleurs lui qui pose l'enseignement de la perdition éternelle. Et il en parle à la foule qui le suit. Il n'a jamais été dupe de la foule. C'est dès le départ de l'évangile selon Jean où il est dit que de toutes les façons, il savait dès le commencement qui croirait, qui ne croirait pas. Et face à la foule, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix. Nous aimons les chiffres. Jésus s'adresse à chacun. En particulier, si quelqu'un entend ma voix au milieu de cette foule qui le suivait pour toutes sortes de raisons bien souvent humaines, mais si quelqu'un entend vraiment sa voix, il renoncera à sa vie. Et celui-là seul pourra être vraiment au milieu de cette foule le disciple qui pourra le suivre. Oui. Le Seigneur Jésus est venu nous parler d'autre chose que de ce qui faisait jusqu'alors notre quotidien, mais qu'on a entendu sa voix, on a compris qu'il y avait plus que la vie présente. Il y avait la promesse de la vie à venir. Amen. Et il est venu pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Ça veut dire beaucoup, nous délivrer du présent siècle mauvais. Ça veut dire pas seulement un jour, une réunion d'évangélisation, on lève la main, on croit, on est sauvé. C'est... tout au long de notre vie, nous arracher à ce monde, nous arracher à ses principes, à ses façons de vivre. Et j'ai peur que l'Église, dans ce monde, comme Israël, au milieu des nations voisines, les avait imités, nous aussi, l'Église, nous vivons parfois en ressemblant à monsieur, madame, tout le monde. Mais si nous ressemblons aux autres, nous perdons cette sainteté. Parce que quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est différent. Il est différent de tous les autres dieux qui n'en sont pas. Il est le seul, l'unique, le vrai. Et quand le peuple de Dieu est saint et sanctifié, ça veut dire que c'est un peuple différent. Un peuple qui ne vit pas comme les autres. Amen. Parce que Jésus est venu parler d'autre chose que ce qui fait la vie de tout le monde. Notre vie n'est plus faite du travail, de la famille, de l'argent, de la réussite. Elle est faite d'autre chose. Amen. Nous avons à prendre une autre direction. Alors, on va lire deux paraboles. La première, dans Luc chapitre 8, verset 4. Luc chapitre 8, verset 4, jusqu'au verset 15. Luc 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il n'y a pas d'injustice, hein. Ceux qui voulaient savoir, il suffisait qu'ils le demandent au maître. Et les mystères ici, ce ne sont pas des mystères pour qu'ils ne soient pas connus, mais pour qu'ils soient révélés à ceux qui veulent vraiment connaître. Il suffisait de s'approcher du maître pour en demander l'explication. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Preuve en est, c'est que ce mystère est expliqué à tous maintenant. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, le verset 8 nous met en garde sur la responsabilité de celui qui écoute. Jésus hausse la voix, il parle plus fort que la voix avec laquelle il a utilisé pour parler de cette histoire du semeur. Il hausse la voix, il parle à haute voix plus encore pour dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme c'est fondamental d'écouter avec les yeux, les oreilles bien ouvertes et surtout le cœur bien disposé. Parce que dans cette parabole, la bonne terre, c'est le cœur honnête et bien disposé. Comment écoutez-vous la parole? Lisez-vous la parole? La responsabilité est à celui qui l'écoute. Avec le temps, on peut s'habituer à la parole de Dieu et ne plus l'écouter attentivement, avec un cœur bien disposé. Le cœur bien disposé, c'est celui qui persévère dans cette parole. Nous venons de le lire. Et nous avons à persévérer dans cette bonne disposition pour recevoir la parole comme au début de notre conversion. Quand on venait de se convertir, toutes les prédications étaient écoutées avec soif parce qu'il y avait un vrai besoin. On avait besoin d'être guidé, besoin de tout apprendre. C'était nouveau, on ne savait rien. Que Dieu puisse renouveler notre oreille pour avoir soif. On a demandé un jour à David Wilkerson quel était son secret. Il a répondu, c'est d'avoir toujours soif. Et de ne plus avoir, non pas une oreille rassasiée, mais avoir cette humilité, Seigneur, j'écoute parce que j'ai encore besoin que tu me conduises par ta parole. Je n'ai pas la capacité de me conduire par moi-même. La première étape au verset 12, c'est le salut par la foi. C'est le long du chemin, le diable fait tout pour enlever la semence, pour que les gens ne croient pas et ne soient pas sauvés. Donc sur la terre, déjà là se joue le salut, sur le chemin de terre. Ce qui veut dire que dès le premier terrain qui suit, celui qui est pierreux, ben, les gens ont cru, les gens ont été sauvés. Alors, ce qui fait réfléchir dans cette parabole du semeur, ou que l'on pourrait appeler des quatre terrains, c'est que bien sûr, le premier terrain, les gens sont perdus, ils ne croient pas, le diable enlève la parole, mais dès le deuxième terrain, on a affaire à des gens qui croient, et si je suis le texte, qui sont donc sauvés. Parce que pour être sauvé, il suffit de croire de tout son cœur en Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce deuxième terrain nous est dit, il croit pour un temps, momentanément. Alors, je ne vais pas me lancer dans des discours théologiques sur la prédestination, le salut éternel, mais je vous le dis comme cela, on peut n'être sauvé qu'un temps. Si l'on ne reste pas en Jésus-Christ, on ne restera pas en son salut. Notre salut ne se perd pas facilement. Je crois à la solidité de notre salut. Amen. Mais je crois que certains ont pu vraiment croire, vraiment être sauvés, et malheureusement, après, comme ce second terrain, à cause de la persécution, à cause de la difficulté, se retirer. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, de ceux qui continuent d'avoir la foi pour sauver leur âme. Amen. Une fois sauvé, toujours sauvé, je vous le dis, je n'y crois pas. Une fois sauvé, il faut persévérer pour aller jusqu'au bout. Amen. La première étape, c'est le salut par la foi. Les deux dangers qui nous menacent donc, le deuxième et le troisième terrain, c'est le découragement et la distraction. Le découragement. Il y a des gens qui sont découragés parce que vient l'épreuve, parce que vient la persécution. Le découragement, ce n'est pas seulement avoir un coup de blues un jour dans la semaine. Ce n'est pas ça le découragement. Le découragement, c'est vraiment un bon moment, se fatiguer dans sa foi et même au point d'être dans la perspective de se retirer. Le découragement et la distraction. Alors, un rappel dans ce qui est écrit ici, c'est que nous devons être éprouvés dans la foi. Les gens sont étonnés, certains, j'ai cru, mais pourtant, j'ai des persécutions, j'ai des difficultés. Je vous rappelle que quand nous nous sommes convertis, le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Le découragement vient parfois de la déception. On est déçu parce qu'on ne s'attendait pas à ce que, quand on soit donné au Seigneur, on ait de telles difficultés, de telles déceptions dans la vie. Et même parfois déception dans l'Église, dans la vie chrétienne, auprès des chrétiens. Ou déception de ce qu'on est touché parfois dans notre propre corps, par la maladie. On a pensé qu'un chrétien serait toujours guéri. Et on s'est rendu compte qu'entre ce que l'on peut dire est la réalité de l'Écriture, eh bien, les uns et les autres, nous passons par toutes sortes d'épreuves. Ce n'est pas une moindre chose que d'aller au ciel. C'est normal que nous soyons, vous et moi, testés pour savoir si nous en sommes dignes. Tout au long de notre vie chrétienne, ce beau salut que Jésus-Christ nous a acquis, eh bien, sera l'objet pour nous d'épreuves, de vérifications. Un tri s'opérera dans ces quatre terrains. Quand même, les trois quarts ne vont pas au bout. Il n'y a qu'un quart qui est sauvé. Un quart, c'est la bonne terre. Donc nous ne devons pas être étonnés, souvent l'on dit dans les églises, mais si tous ceux que l'on a baptisés étaient restés, on n'aurait pas assez de place dans notre local. Mais je suis sûr que c'est vrai ici, mais c'est vrai dans toutes les églises. Parce que c'était vrai déjà du temps de Jésus. Il s'adresse à la foule. Vous avez remarqué en début de parabole, une foule immense le suivait. Et là encore, il dit à cette foule, attention, sur tous ceux qui entendent la parole, il n'y en a qu'un terrain pour qui cette parole portera beaucoup de fruits. Alors ça fait réfléchir quand même. On se dit, Seigneur, alors ce qui compte, c'est même pas de venir à l'église, c'est d'être une bonne terre pour toi. Amen. Si le Seigneur était là et qu'il prêchait encore aujourd'hui dans les églises comme il prêchait dans les synagogues, il dirait les mêmes choses à tous. Parfois, quand nous lisons ces paraboles, nous pensons que ça s'adresse à un public de néophytes, mais ça s'adresse à la foule qui le suivait et l'entendait régulièrement. Et dans cette foule, même ses propres disciples. Alors, le découragement vient d'un engagement superficiel, d'un engagement humain. Les gens ont pensé qu'en croyant au Seigneur, dans leur vie humaine, ça irait mieux. Mais quand ils se sont rendus compte que dans leur vie humaine, ça a été difficile, alors ils ont remis en cause leur engagement. C'est un terrain superficiel, c'est un terrain dans lequel il y a des pierres. Si nous voulons aller jusqu'au bout, il va falloir enlever les pierres de la superficialité. Il y a dans nos vies des idées, des conceptions qui sont fausses, qui nous fragilisent. Et il faudra laisser le Seigneur labourer notre terre, notre cœur, nous remettre en cause et en question, et enlever toutes les pierres qui empêchent l'humidification du sol. Il y aura des choses que Dieu voudra enlever dans nos vies pour nous donner plus de fond. Plus de fond. Il me semble que la foi superficielle peut se guérir par le travail du Seigneur. Alléluia. Alors, le découragement. Le piège peut-être le plus important pour nous, c'est le second, la distraction. Sous une triple forme. D'abord les soucis, après les richesses, et enfin les plaisirs de la vie. La distraction. Est-ce que cette semaine, vous étiez bien dans le Seigneur? Ou occupé à d'autres choses? Si cette semaine, vous n'étiez pas vraiment dans le Seigneur, c'est difficile ce matin, pendant ce culte, d'être dans le Seigneur. Souvent, le culte est le reflet de ce que nous sommes. Et nous voudrions d'un coup qu'en une réunion, paf, tout change. Il y a de la louange, il y a la visitation du Saint-Esprit, et beaucoup de chants disent « Viens maintenant !» Comme si quand on allait se rassembler en un maintenant magique, tout allait être changé. Mais le culte, ce sont nos vies. Que nous venons avec nos vies. Et le culte ne sert pas à nous entraîner dans une espèce d'illusion où nous pourrions tout au long de la semaine vivre loin du Seigneur, mais à ce moment du culte, être rapprochés pour une heure et demie et avoir une semaine ensuite similaire à la précédente. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. en vérité. Alors quelque part, ce matin, c'est déjà trop tard. Mais que de fois les réunions nous ont aidés à nous remettre sur le bon chemin. Et je prie le Seigneur que cette méditation nous aide à nous donner d'être dans le bon chemin. Amen. La distraction, leur souci. Souci, c'est péjoratif. Une autre traduction rend par préoccupation. Parce que quand on pense aux soucis, peut-être on peut se dire, oui, ça c'est, il y a des mauvais soucis. Oui, mais il y a des bonnes préoccupations dans la vie. Je ne crois pas que quand le Seigneur nous met en garde sur le souci, il voudrait nous dire, écoutez, évitez les mauvais soucis, et les bons soucis, c'est normal. Non, je pense que ce soit les bons ou les mauvais soucis, le problème, c'est quand ils nous envahissent. C'est leur importance dans notre vie. Vous pouvez vous préoccuper de choses tout à fait légitimes. Nous le verrons dans la seconde parabole, les gens vont s'enquérir de choses bonnes même. Vous pouvez vous soucier de l'organisation de la maison, les enfants, le travail, un tas de choses bonnes. Mais si votre vie avec le Seigneur, c'est de ne penser constamment qu'à ça, sans plus même être capable d'être concentré quand vous lisez la parole, si vous la lisez, alors vous êtes dans ce piège de l'étouffement de la parole par les ronces. C'est le terrain plein de ronces. Je pense que l'Église occidentale est dans ce piège-là. Parce que la vie moderne qui nous promettait de gagner du temps, on vous construit des voitures qui vont vite et vous gagnerez du temps. On vous construit des portables qui seront capables de communiquer avec la vitesse de l'éclair et vous gagnerez du temps. Mais plus on nous promet de gagner du temps, moins on en trouve. C'est un problème. Il faut arrêter de croire aux mensonges du monde. Parce que le diable, il veut essayer tous de nous occuper beaucoup. Parce que je pense qu'il ne sème pas que de l'ivraie, je crois qu'il sème des ronces aussi. Et il voudrait que les ronces, voilà, se développent. Envahis par les préoccupations. Est-ce que vous savez couper votre portable? Ah! Excusez-moi d'être un peu concret. Parfois, on est constamment en connexion. Mais pas forcément en communion. Et il y a des moments où la connexion empêche la communion. Parce que le monde a réussi à faire par sa technologie en sorte que nous soyons constamment stimulés par des sons, des notifications, par des choses qui vibrent. Et qui fait que constamment, on est dedans. On est tourné vers ça. Et si vous ne répondez pas immédiatement, ce n'est plus accepté. Où est le temps où on appelait sur un téléphone fixe et les gens n'étaient pas là, ils ne répondaient pas. Et peut-être le lendemain ou le surlendemain, ils le rappelaient. Où est ce temps-là? Si vous appelez quelqu'un au portable, il doit vous rappeler tout de suite. Oui, mais à force de vivre comme cela, on n'a plus le temps pour prier. On n'a plus le temps pour lire la parole de Dieu. Mais il serait très intéressant d'additionner ces micro-temps passés dans la communication. Et je suis sûr que additionné, vous seriez effaré du temps que nous avons tous, mais que nous nous laissons voler. C'est un auteur chrétien qui parle d'activité chronophage. Chronophage. Eh oui, la distraction ou les préoccupations, les richesses. Paul a dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Mais moi, j'en suis pas là. La nourriture et le vêtement, c'est quand même le strict minimum, vous trouvez pas? C'est un peu exagéré. Ah mais non, mais il faut aussi ça. Et puis, le monde a réussi dans ses mensonges à nous convaincre qu'il y a des indispensables. Là où l'Écriture dit que ce qui est indispensable, c'est la vie éternelle. Jésus est venu nous parler d'autre chose, je le disais. Jésus est venu nous parler d'autre chose que ce que ce monde nous propose. Une autre vie, la vie nouvelle. Pour quelqu'un qui se convertit en 2022, la vie nouvelle, mais ça va être radical. Il va avoir des façons de faire. Il y aura des réseaux sociaux sur lesquels les personnes n'iront plus. Parce que si c'est pour dire n'importe quoi, regarder, écouter n'importe quoi, et participer au péché d'autrui, c'est sûr et certain que les gens qui vont se convertir aujourd'hui, le Seigneur Jésus va leur dire autre chose. Amen. Et à chaque fois, chaque génération, quand il y a eu repentance, il y a eu rupture avec le monde. Mais parfois, l'Église s'est adaptée au monde. Alors, j'espère que vous ne réduirez pas ce que je vous dis en disant bah, « Le frère, il est contre ceci, contre cela, contre cela. J'ai un portable. À cause du ministère, sinon je crois que je n'en aurai pas. Je vais sur Internet. Il n'y a pas de souci. » Mais, et moi compris, on se fait tous piéger par le temps que l'on peut y passer. Et ça, c'est pris toujours sur le compte du Seigneur. C'est ça qui ne va pas. Parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours le même qui paye. Vous ne trouvez pas? Alors qu'on dit qu'il est notre Seigneur et que nous voulons lui rendre un culte qui lui soit agréable. Deuxième distraction, les richesses. Oui, beaucoup de textes de la parole nous mettent en garde sur l'argent. Alors oui, je vous entends me dire, vous savez frère, moi ça va. J'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas attaché. Ok, moi je pense que ça nous concerne plus qu'on ne le réalise. Et que des fois, on fait des choix dans nos vies à cause de l'argent, même qu'on est chrétien. Ce qui parfois peut nous motiver dans le choix d'un travail, en tant que chrétien par exemple, ça peut être prioritairement le salaire. Là je dis, c'est l'argent qui nous dirige, pas la foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à avoir un bon salaire pour vivre décemment. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas raisonner comme le monde qui avant tout s'appuie et est garanti par l'argent. Nous, ce devrait être de faire la volonté du Seigneur. Amen. Il y a peut-être des propositions que l'on vous ferait. Tout de suite, vous savez que ce n'est pas le plan de Dieu, hein, parce que vous avez vérifié le salaire. Mais ne devrions-nous pas avoir comme souci avant tout, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Et je veux apprendre à ce que l'argent vienne après. C'est dur aujourd'hui d'entendre ça dans notre société qui met tant en valeur l'enrichissement. Parce que notre monde nous fait croire que si vous êtes riche, vous êtes quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas riche, vous n'êtes rien. Mais ça, ce sont des valeurs mondaines. Le Seigneur Jésus n'était pas riche. On l'a vu hier avec la jeunesse, il est né dans une mangeoire. Et il a vécu comme il est né. Amen. Alors voyons la troisième distraction, c'est les plaisirs de la vie. Ah ben ça, on est vraiment concerné, hein. La société de loisirs. Eh oui, la société de loisirs. Les loisirs, ça coûte. Les loisirs, ça s'organise. On passe parfois beaucoup de temps, là encore, sur Internet, pour trouver le bon plan, pour pouvoir nous permettre de nous aérer, de partir en vacances, de faire des expériences, etc., etc. Certainement, Je ne suis pas contre le repos, c'est biblique, mais nous en reparlerons quand même. Néanmoins, à force de nous préoccuper pour les choses légitimes de la vie, d'être intéressé par l'argent, et en plus d'y ajouter tout un tas d'efforts pour que notre vie soit agrémentée de divers plaisirs, à la fin de cela, le bilan de l'équation, c'est que notre vie spirituelle, on ne va pas bien. Dieu a conduit Israël dans le désert pour lui apprendre une chose, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et nous avons peut-être besoin de moins nous distraire et de nous recentrer sur l'essentiel, en dehors des réunions. De retrouver la présence de Dieu. Amen. Dans notre vie si trépidante. Et on lit la seconde parabole, Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Luc chapitre 14, verset 15. Ce sont des paraboles très simples que je partage avec vous. D'ailleurs, je ne le sais pas, c'est pour ça que j'en parle avec liberté, mais permettez-moi une remarque. Lorsque vous partez en vacances, je vous recommande d'aller dans des assemblées. Assemblée de Dieu, hors assemblée de Dieu, peu importe quelle assemblée, pourvu qu'il y a là des frères et sœurs qui aiment le Seigneur et que la parole de Dieu soit annoncée. Je n'ai pas un esprit de chapelle et il n'y a aucune assemblée dans laquelle il vous serait interdit d'aller. Mais si nos loisirs nous permettent les week-ends de ne pas aller dans la maison de Dieu régulièrement, quelle est notre priorité? Quelle est notre priorité? Je ne sais pas quelles sont vos pratiques. C'est pour ça que j'ai la liberté de vous en parler. Sinon, je serais plus gêné. Mais permettez-moi, je l'ai toujours enseigné à toutes les assemblées où j'allais, c'est que les vraies vacances, ce n'est pas d'être en vacances de l'Église. Les vraies vacances, ça se vit avec le Seigneur. Amen. Ah, vous allez raisonner, « Oui, mais alors, c'est déjà sur mon week-end, j'ai déjà tout le dimanche matin de prix. » Mais ça, je crois qu'au début de notre conversion, on n'aurait jamais osé penser ça. Mais c'est avec le temps où des choses secondaires ont pris la place de l'essentiel. Alors, Luc chapitre 14, verset 15, s'il vous plaît. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. » Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera à mon repas. Amen. Amen. Bon, voilà. C'est encore et régulièrement, le Seigneur Jésus a essayé d'avertir pour rester, laisser les gens dans la vigilance pour qu'ils ne s'endorment pas. À plusieurs, nous avons prié ce matin, réveille-nous. Pour que le Seigneur Jésus régulièrement rappelle l'essentiel, pour qu'on ne s'endorme pas dans ce monde. Alors, le champ, il y a le champ, les paires de bœufs et le mariage. Ce qui est étonnant avec le chant, c'est comment c'est tourné au verset 18. Je suis obligé. Une autre traduction dit, il faut absolument que j'aille le voir. Alors, c'est curieux, mais il y a des choses qui sont impératives pour nous. Obligatoires, urgentes. Et même, on sent bien qu'on a, on peut rien dire. Parce que, mais je dois le faire. Frère, sœur, si vous devez le faire, personne ne va vous en empêcher. Même pas Dieu. Hein, je suis obligé. Vraiment, c'est vrai. C'est vrai qu'on est si obligé que ça. C'est vrai que c'est indispensable. Je ne sais pas. Je pense que ce qui est indispensable, c'est de suivre le Seigneur et de répondre à son appel. Amen. Ça me fait penser à chacun d'entre nous où on est persuadé qu'il y a des choses plus importantes que de répondre à ce que le Seigneur nous demande. On en est persuadé. On en est convaincu. Non, c'est plus nécessaire de faire ça que de te suivre. Mais demain, je me rattraperai. Vous savez que les musulmans ont le droit de se rattraper. S'ils ratent leur prière, ils peuvent en additionner pour rattraper. Mais le Seigneur, quand il nous demande quelque chose, il demande qu'on obéisse tout de suite, en fait. Il faut absolument, je suis obligé. Dans ce message, peut-être quelqu'un se dit, moi, le frère, il prêche ça, d'accord, mais moi je ne peux pas. Bon, ben, si tu ne peux pas, alors effectivement, tu resteras comme c'est. Alors, les paires de bœufs, la place du travail, il faut que j'aille les essayer. Les paires de bœufs. Je me souviendrai toute ma vie, dans ma première église, j'étais impressionné par un frère, comme je peux l'être de plusieurs frères et sœurs parmi nous, tant que vous avez, et je vous le dis sincèrement, de belles qualités. Et ce frère m'a impressionné parce qu'il savait tout faire de ses mains. Et c'était un travailleur. Et j'allais dans son garage parfois. Et un jour, il s'est confié, il m'a dit, « Tu sais, David, je dois t'avouer quelque chose, c'est un piège pour moi. Parce que je peux passer des heures. Mais à côté de ça, l'essentiel, je l'oublie parfois. » Il y avait des paires de bœufs. Il fallait essayer les paires de bœufs. La place du travail. Je crois que c'est très bien que si vous êtes courageux et travailleur, c'est vraiment bien. La Bible l'enseigne. Seulement le livre de l'Ecclésiaste dit, « Il vaut mieux une main pleine avec du repos que deux mains pleines avec la poursuite du vent. » Il y a des études qui sont faites dans le management qui prend, je l'ai déjà, je crois, employé parmi vous, parce que c'est très parlant pour moi, comme image du travail, le gaz. Et certains formateurs en management, des fois, font l'expérience, ils peuvent ouvrir un gaz et ça se répand, on sent l'odeur dans toute la pièce. Et de dire que le travail, c'est comme un gaz. Si on n'y met pas de limite, ça prend toute la place. Pas facile, ça. Pas facile. Quand notre travail nuit à notre foi, il faut demander la grâce de Dieu pour trouver une solution. Amen. Le mariage, la place de la famille. Nous oublions quand même que c'est Dieu qui nous a fait grâce pour notre couple. Amen. Je me souviens, avant d'être converti, je m'étais promis que je ne me marierais jamais parce que je savais que de toute façon, ça terminerait mal. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, alors mon horizon s'est élargi. Je me suis dit, mais avec le Seigneur, c'est possible de ne pas divorcer. Alléluia. Avec le Seigneur, c'est possible de s'engager sur du long terme. Alors j'ai prié et Dieu m'a béni. Alléluia. Mais c'est pour servir Dieu que Dieu nous a réunis. Amen. Je suis marié et mon mariage m'empêche de répondre à ton invitation. Ah bon ? Servons le Seigneur à deux. Alléluia. La famille n'est pas un obstacle au service de Dieu. Bien au contraire. Le Seigneur Jésus a demandé de l'aimer avant la famille. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, n'est pas digne de me suivre. C'est fort cette parole-là. C'est fort. On voudrait l'édulcorer ou ne pas en parler. Mais le Seigneur l'a dit. Lui en premier. Amen. Lui en premier. Alors, en conclusion, on va lire 1 Pierre chapitre 4, verset 7, pour ne pas être trop long. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Amen. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous rends d'une autre façon. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Bon, être sage, c'est mener une vie équilibrée. Et sobre, avoir de la modération, peut-être dans nos achats, dans nos envies, parce que moins on sera modéré dans notre façon de vivre, plus on va élever notre niveau de vie, plus il faudra assumer. Et ça va entraîner notre rythme de vie. Et à la fin, par ce manque de sagesse, on ne sera plus en mesure même de nous consacrer, avec la meilleure volonté que vous aurez. Et je suis conscient, ce matin, c'est difficile pour moi, parce que je suis conscient que parfois, nous nous sommes piégés et que ce que je vous dis aujourd'hui est impraticable aujourd'hui. Pour plusieurs. Mais je crois que la sagesse de Dieu peut commencer à venir dans notre cœur et qu'en suppliant le Seigneur pour nous donner une vie plus équilibrée, pas demain, mais dans les semaines, les mois, les années à venir. Cette sagesse vous permettra d'avoir une vie qui ne soit plus une copie de celle des gens du monde, mais une vie favorable à la prière. Parce que ce texte, c'est là, sage, sobre, pour prier. Pour avoir le temps de vivre, c'est le temps de prier. Alléluia. Souvent dire, on n'a plus de temps pour être avec les enfants, on n'a plus de temps pour ceci. Mais on n'a plus de temps pour être avec Dieu aujourd'hui. Et c'est ça la priorité. Et ce texte nous dit qu'il nous faut avoir de la sagesse et de la sobriété afin d'avoir le temps de vivre avec Dieu. Amen. J'ai fait ces erreurs, je le comprends et je ne juge personne. Mais il faut savoir dire non parfois au travail. Moi, j'ai eu une période où je ne savais pas dire non. Mais à un moment donné, j'étais épuisé. Et j'essayais de prier, j'essayais. Mais je tombais. C'est dur de dire non. Enfin, il y en a qui n'ont pas de difficulté. Ce n'est pas forcément mal d'ailleurs. Je l'ai jugé avant. Je dis, ouais, ils ne veulent rien faire. Voilà. Mais je me suis rendu compte que, en tant que chrétien, il faut être capable de dire non. Non pas non parce que j'ai pas envie de bosser, mais non parce que j'ai envie de prier. Alléluia. Non parce que je voudrais avoir du temps pour mon Dieu et pas tout sacrifier. Ça veut dire aussi dans cette sagesse, cette vie équilibrée, peut-être pas être perfectionniste dans son travail. Parce que si vous êtes perfectionniste dans votre travail, vous n'en ferez jamais assez. Moi, je veux bien, mais quel décalage entre la perfection au travail et l'indigence spirituelle ? N'y a-t-il pas un rééquilibrage à faire pour trouver une voie de sagesse ? Amen. Soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Amen. Je ne pense pas que Dieu veut pour nous que l'on vive l'esclavage en Égypte. Ça a toujours été une tactique diabolique. Quand Moïse va pour que son peuple soit délivré, qu'est-ce que fait Pharaon ? Eh bien, maintenant, ils vont faire le même boulot, mais sans paille. Il a augmenté le rythme de travail, il a augmenté la cadence. Et comme ça, ben c'est Pharaon lui-même qui le dit. Il ne va pas penser à son Dieu. Et c'est vrai que des fois, on a des vies, on ne peut plus penser à notre Dieu. Alors que je ne crois pas que... Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est curieux, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'une vraie délivrance. Afin qu'il serve le Seigneur. Amen. C'est pas lié à nous seulement, hein. C'est général. On parle souvent du monde qui infiltre l'Église, alors on est attaché à certaines formes, mais je pense surtout que le monde, c'est que nous ayons sa façon de vivre. Que Dieu nous en préserve. Amen. Que Dieu nous conduise dans une autre façon de vivre à sa gloire. Pour terminer, je vous parlerai de deux choses, du sabbat et de la conversion. Alors le sabbat, ça touche, Dieu nous connaît, vous savez. Il sait que si on avait 8 jours dans la semaine, on travaillerait 8 jours. Si on avait 10 jours dans la semaine, on travaillerait 10 jours. Alors il a fait une semaine de 7, et dans la semaine de 7, un jour de repos, le sabbat. Et ça a toujours été très dur pour Israël de respecter le sabbat. C'est curieux. Moi, pendant des années, je me disais, mais c'est un jour de congé. C'est tout bénef. Je pense que les Français n'auraient pas eu de mal à respecter le jour de sabbat. Mais en réalité, non. On aime ça. On aime tous être actifs. Et c'est très dur d'être inactif. Mais le jour du sabbat, c'était pas rien. Le jour du sabbat, c'est le jour où on allait à la synagogue. Ce n'était pas un jour, en fait, de congé, comme le français le conçoit. Le français, jour congé ou jour férié, c'est jour pour soi. Dans la Bible, jour sabbatique, c'est jour pour Dieu. C'est tout à l'heure, quand je parlais de vacances sans Dieu. Tout est là. Nous sommes modelés de notre esprit français, où on a quand même le droit de se faire plaisir. Mais en réalité, nous devons vivre notre repos pour Dieu en Jésus-Christ. Le sabbat a été pleinement accompli en Jésus-Christ. Nous pouvons nous reposer sur ce qu'il a fait pour nous et être en paix et vivre dans son repos. Alléluia. Même en étant en activité. Mais ce repos, lorsque notre activité nous empêche de vivre dans la paix, alors cette activité-là doit être sanctionnée par la sagesse de Dieu. Vivre dans l'esprit du sabbat, c'est-à-dire de vouloir vivre dans une vie qui nous permet toujours de penser à Dieu, de vivre pour lui. Amen. C'est beaucoup plus qu'un jour par semaine. C'est un état d'esprit. Et je parlais de la conversion. En fait, la conversion, c'est se tourner. C'est une direction, c'est une orientation. Eh bien, je vous propose ce matin, non pas de vous convertir, vous l'êtes déjà, mais de reprendre la bonne direction. Je ne vous demande pas très concrètement... Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais de vous ressaisir et de me dire, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai été tourné vers toi à fond. Maintenant, je me suis tourné vers d'autres choses. Je veux reprendre la bonne direction. Amen. Et pas à pas, si vous reprenez la bonne direction, je suis sûr et certain, le Seigneur vous aidera. Alléluia. Le Seigneur vous fera grâce. Il y aura des solutions. Il y aura des choses nouvelles. Béni soit Dieu. Vous savez, des fois, quand on est découragé, on fuit dans le travail. Et j'espère que les difficultés que vous avez connues, sans que vous vous en rendiez compte pour quelques-uns, ça vous pousse à trouver une satisfaction ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Découragé, déçu par ce que vous avez vécu, vous pouvez trouver au travail une meilleure entente avec des collègues, de meilleures perspectives, des activités valorisantes. Et c'est un piège. Hein? On solutionne nos découragements parfois d'une mauvaise façon. Reprenons ensemble la bonne direction tournée vers le Seigneur. Amen. Hein? Tout ce que j'ai dit ce matin, c'est pour que le Seigneur nous aide à retrouver la joie d'une vie qui lui appartienne. Amen. Prions à quelques-uns, s'il vous plaît. Peut-être on va se lever à nos places pour prendre la scène et les frères prévus pourront venir sur le devant dès à présent et on terminera notre culte en prenant cette scène. Les frères peuvent s'approcher. Merci. Il y a un frère qui est prévu pour la prière. Il priera pour nous et nous pourrons ensuite prier pendant la scène. Merci.